Alors, Ray étant à Moncton, on a le frappeur de relève ambidex.
Oui. Hein? Ambidex des deux mains.
Tu frappais-tu des deux bords du marbre?
Il y a une année où j'ai dans le senior où j'ai frappé des deux bords.
Tu l'essayais, c'est ça, t'étais capable?
Mais j'étais meilleur, pas mal meilleur du côté droit.
Mais est-ce que ça se peut quelqu'un qui serait bon égal des deux bords?
Il y en a.
Il y en a un qui a joué cette fluidité.
Pete Rose est peut-être le meilleur exemple.
Ah oui, je savais même pas. Il était ambidex, OK? Oui. Je savais pas.
Ouais.
Donc, pour les gens qui connaissent pas trop le baseball et qui suivent pas le baseball, être un frappeur ambidex, c'est toujours de s'installer au marbre à l'opposé de la main du lanceur.
C'est ça. Un lanceur droitier, donc le frappeur, généralement, va être gaucher parce que tu vois mieux l'effet de la balle, en principe.
Exact. Puis le lanceur peut moins venir jouer à l'intérieur.
Exact.
Donc,
aussi.
Il te menotté. OK, Vez, donc, il y avait énormément de sport hier.
Oui.
Allons-y.
Surtout énormément de hockey. Parce
oui.
qu'il n'a pas aujourd'hui à cause de la fête de l'Action de grâce américaine.
Ouais.
Donc, on laisse toute la place au football de la NFL. On va y revenir. Mais hier, il y avait 14 matchs.
Je ne sais pas quand la Ligue nationale a vraiment arrêté de présenter des games.
Ça fait pas longtemps.
Ça fait pas longtemps, hein, parce que j'ai le souvenir qu'il y avait des matchs à Thanksgiving. Mais moi, j'ai été à Thanksgiving aux États-Unis. On va en parler plus tard. Pendant plusieurs années consécutives. Puis, il n'y avait pas de hockey déjà, mais ça ne doit pas faire
une
dizaine d'années.
Non, je pense pas. Donc, le Canadien joue à Washington hier, un gros contrat. Les Caps vont bien. Tu sais, puis ceux qui disent que, ouais, le Canadien a des blessés, Weber, puis ben, ils vont-tu arrêter de nous casser les oreilles? Ils sont pas là, arrêtez, là.
Ouais, c'est ça.
Ils sont pas là. Jouer avec l'équipe qui sont là, puis en principe, ça devrait quand même bien aller. C'est quand même des joueurs de la Ligue nationale. Parce que si on veut parler de blessés, hier, Washington, il a manqué T.J. Oshie, Connor Sherry, Lars Eller, Niklas Backstrom, qui n'a pas joué de l'année, et Anthony Mantha. C'est quand même pas 5 pieds de tillerie, là.
Non, non, c'est ça. C'est top 2 lignes.
Mais ils ont quand même gagné 6-3 hier contre les Canadiens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est Cole Caulfield qui a fini par briser la glace.
Okay.
Dans le sens figuré, évidemment. En marquant son premier but de la saison.
Il n'a pas brisé beaucoup parce qu'il n'est pas rentré très, très creux.
Non. Il a fallu aller à la reprise vidéo parce qu'on pensait que c'était un bel arrêt de
Samsonov,
voyons, je me mêle toujours avec un autre. Mais ça a été quand même le premier but de Caulfield survenu en deuxième période. Evans et Lekkonen sont les autres marqueurs du Canadien. Ovechkin, non, n'a pas marqué hier, mais il y a 3 passes. Ça lui permet de rejoindre Guy Lafleur au 27e rang des pointeurs de l'histoire de la Ligue nationale. 1353 points. Et hier, on parlait justement d'Ovechkin et sa course pour essayer de rejoindre Wayne Gretzky et ses 894 buts. Ovechkin en a 745, donc il en manque 149. Il manque 149 buts. C'est 149 buts, là, c'est 3 saisons de 50 buts.
Ouais.
Il est rendu à 36 ans, le bonhomme. Là.
Ouais, c'est pas grave, il est tellement...
Il continue à produire.
Ouais.
Il y en a 15 depuis le début de la saison en 20 matchs. Fait qu'à ce rythme-là, on dit qu'il lui manque 168 matchs
okay.
pour rejoindre Gretzky. Donc, ça le placerait durant la saison 2024-2025. Ça fait que c'est possible, mais tu sais, il va avoir 39, pas loin de 40 ans à ce moment-là. Puis il faut dire aussi, au crédit d'Alex Ovechkin, qui a marqué ses 745 buts malgré 2 lockouts, dont une saison complètement annulée.
C'est vrai.
Et la pandémie qui a fait en sorte qu'on a eu 2 saisons raccourcies.
C'est vrai.
Ça fait que, tu sais, j'ai
fait
le calcul.
Des conditions différentes aussi.
J'ai fait le calcul de nombre de buts par match entre Ovechkin et Gretzky. Ovechkin, c'est 0.612 buts par match en carrière. Et Gretzky, c'est 0.601. Ovechkin est en avant de Gretzky. Pas par une tonne.
Non, je comprends.
Mais il est quand même en avant.
Il est quand même devant.
T'sais, en termes de nombre de buts par match depuis les
alors que
carrière.
C'était des statistiques pour les amateurs de hockey de l'époque qui allaient assurément jamais n'être battu, même ça, jamais approché.
Jamais. Ben déjà, on se disait à 800, c'est 802 buts, Gordian, on se disait jamais personne ne va l'atteindre.
Exact.
Gretzky l'a dépassé par 92, mm-hmm. 92 de plus. Ça fait que, non, Ovechkin, c'est
puis les goalers d'Astor sont bien meilleurs qu'à l'époque aussi.
Ouais, ils sont plus gros.
On compare, mais en même temps, même si son pourcentage de buts par match est plus élevé, c'est déjà encore un exploit de plus parce que les goalers sont pas comme à l'époque, malgré que les joueurs étaient adaptés aux goalers de l'époque, vous allez me dire, mais je sais pas, j'ai l'impression que...
Puis hier, quand tu regardais, tu sais, à un moment donné, Ovechkin avait une occasion, tu sais, je pense que c'était déjà 3-1 pour Washington, puis Ovechkin, au lieu de prendre un bon lancer, il était dans une bonne position pour faire un lancer. Il a fait une passe pour donner un but.
Exact. Et il n'hésite pas à la donner.
Non, c'est, il est généreux, puis il joue pas, il est moins égoïste, il est moins selfish qu'il l'a déjà été à ses débuts. Puis Guy Boucher mentionnait avec raison que depuis que Barry Trotz l'a coaché pendant 2 ou 3 ans, il a complètement transformé l'attitude d'Ovechkin.
OK.
Barry Trotz avait eu, quand il est arrivé avec Washington, je me souviens d'avoir lu un texte dans le Sports Illustrated, me semble, un long texte qui parlait de la relation entre Barry Trotz puis Ovechkin, puis la responsabilisation d'Ovechkin envers le reste de son équipe. Ovechkin, à un moment donné, durant un voyage à Los Angeles pour affronter les Kings, il est allé luncher avec Wayne Gretzky.
Ah ouais, OK.
Pour avoir le feedback d'un gars qui l'a vécu, là, le succès, puis comment on devient un bon joueur d'équipe.
Ça veut dire que c'est avant qu'il gagne la Coupe Stanley?
Oui.
OK?
Oui, parce qu'il a gagné avec Barry Trotz.
C'est ça, exact.
Effectivement.
OK. Oui.
Ah, non, c'est bien intéressant. Je sais pas s'il y a moyen de retrouver ce texte-là dans Sports Illustrated, mais ça, parce que ça date d'il y a quelques années.
OK.
Mais bref, donc le Canadien va jouer, c'est une victoire en 10 matchs depuis le début de la saison pour le Canadien sur la route. Et demain, c'est encore sur la route, mais à Buffalo contre les Sabres. Les Sabres qui ont perdu leurs 4 derniers matchs, puis qui ont seulement 2 victoires à leurs 10 derniers. Et hier, les Sabres ont perdu encore à Buffalo, 5-1 contre les Bruins de Boston. Bergeron, Coyle et Pasternak ont bu une passe chacun. Dans les autres matchs, on ne les passera pas tous parce qu'il y en avait quand même 13 autres, à part celui du Canadien. Mentionner que les Rangers ont battu les Islanders 4-1. Les Islanders sont dans une mauvaise période, 7 défaites de suite. Alexis Lafrenière a été blanchi de la feuille de pointage pour les Rangers, mais il a gagné son premier combat chez les professionnels, comme on dirait à la boxe.
OK, OK.
S'est battu contre Jean-Gabriel Pageau. On s'entend que c'est pas le plus gros, mais quand même, ça fait bizarre de voir deux Québécois qui se tapent sa margoulette. Mais Lafrenière a clairement battu Pageau dans son duel. Les Sénateurs d'Ottawa, ça continue de mal aller. Une seule victoire à leurs 10 derniers matchs. Ils ont perdu 6-3 contre les Sharks à San Jose. L'autobus du Wild du Minnesota était pogné dans le trafic au New Jersey hier. Okay. Et ils sont arrivés en retard à l'aréna, donc le match a débuté avec 30 minutes de retard.
C'est vrai?
Mais le Wild a quand même gagné 3-2 en fusillade. Pittsburgh a battu Vancouver 4-1. C'est une 4e victoire de suite pour Pittsburgh. Pierre-Luc Dubois et les Jets ont été blanchis 3-0 à Columbus. C'était le retour de Dubois à Columbus contre son ancienne équipe. Et il y a aussi la Caroline qui connaît un très, très bon début de saison. Ils ont perdu à Seattle. Pourtant, les Seahawks, campagnes du monde, on se mélange, là. Le Kraken qui remportait seulement une 2e victoire en 8 matchs. Toronto a battu Los Angeles 6-2. Vegas avec le retour de Pacioretty, qui a raté 17 matchs à cause d'une fracture à un pied. Je suis là, mon poule. Vegas a gagné 5-2. Non, mais je l'ai pris sur 16 rondes, je l'ai pris 15e.
OK, OK.
C'est un très bon late pick.
Okay.
Vegas a gagné donc 5-2 à Nashville et Pacioretty a récolté une passe. Puis Edmonton a battu l'Arizona 5-3. 2 buts, 2 passes chacun pour McDavid et Draisaitl.
Tu as parlé du Kraken de Seattle, là, puis ils ont donc gagné un 2e match là, dans une série de 8 là.
Dernier, ouais.
Mais tu sais, ils ont eu un début de saison qu'on pourrait peut-être ordinaire, c'est ça, difficile. Donc, mais ce qui est tout à fait normal pour une équipe d'expansion en réalité.
Ouais.
Donc, moi, ça me fait réaliser que ce qui était anormal, c'était la saison, et pas uniquement que la saison, au contraire, c'était que le repêchage d'expansion qu'a réalisé, je me souviens pas de son nom, là, à la tête des Golden Knights de Vegas,
ouais,
était exceptionnel.
C'est George, lui, là.
Ouais, je veux le dire.
Hein? Non, pas McPhee.
Oui, c'est ça que j'ai envie de dire aussi.
C'est ça?
En tout cas, juste de voir comment une équipe d'expansion, c'est toujours difficile. Il y en a eu à travers les années, puis il y a très peu d'équipes d'expansion qui avaient connu du succès, et c'est tout à fait normal. Tu piges dans les restants des autres équipes selon les règles que la Ligue va fixer. Les règles étaient les mêmes pour Seattle qu'ils ont été pour les Golden Knights de Vegas. Seattle a eu aussi énormément de temps, quoique presque 2 ans, pour analyser vraiment les joueurs qui allaient être disponibles pour eux autres, pour les repêcher. Et ça reste une équipe qui est peu flamboyante, qui est peu... tu sais, il n'y a pas de superstar,
pas de vedette.
Et pourtant, à Vegas, dès le début de la première saison, il y a des gars qui se sont démarqués. Et ils ont fait des transactions aussi très rapidement au début de leur arrivée dans la Ligue nationale.
Ce que Seattle n'a pas fait.
Exactement. Fait que, et pourtant, ils ont réussi Vegas à faire ça, ces transactions-là, parce que dans les joueurs qu'ils n'utilisaient pas, il y avait des gars qui allaient jouer dans la Ligue nationale tantôt, ce qui semble pas le cas non plus à Seattle.
Ouais.
Fait que tu vois que ça peut être une question de décision. Ça peut être également, on le sait par exemple, quand on pense au repêchage amateur, qu'il y a des années où quand un mec David, ou il y a des années où, mettons, il y a 10 des 30 premiers choix qui vont jouer dans la Ligue nationale rapidement, il y a des années où il y en a pas pantoute. Fait que c'est, ça peut varier un peu, mais c'est la qualité du directeur général et de l'organisation qui fait que Vegas a été l'équipe d'exception pour une équipe de d'expansion.
Mais
on verra pas ça.
Il y a peut-être les autres directeurs de la Ligue nationale, les autres directeurs généraux de la Ligue nationale qui ont appris la leçon de Las Vegas, puis ils ont peut-être manœuvré différemment pour moins exposer des joueurs vedettes pour le repêchage de Seattle quelques années après. Il y a peut-être de ça aussi.
Ben,
puis il y a la mentalité, la philosophie de Ron Francis à Seattle qui était sans doute différente que celle à Las Vegas. Tu sais, si Seattle avait repêché, tu sais, dans des conditions normales, si, mettons, Seattle avait décidé de repêcher Carey Price, il n'y aurait pas un début de saison à 6 victoires, 12 défaites, une nulle.
Il n'y aurait pas une défaite
en prix d'égalité. Mais non, il en aurait peut-être plus.
Là, il n'a pas joué.
Non, je comprends, je parle en conditions normales.
Okay.
C'est mettons qu'il n'aurait pas été blessé, il n'aurait pas été opéré un genou, il n'aurait pas été absent pour son affaire. Tu sais, ça aurait changé peut-être le portrait du Kraken
exact.
En partant. Là, parce que, souviens-toi, il y a Marc-André Fleury qui était à Las Vegas
qui
en partant.
Qui était le premier choix.
Qui était le premier choix et qui a donné de la crédibilité à cette équipe-là.
C'est vrai.
Est-ce que le rôle de Gérard Gallant est si grand que ça d'avoir vendu la bonne affaire à ses joueurs qui est... T'sais, vous êtes tous des rejetés.
Ouais, ouais.
Prouvez que vous en êtes pas.
C'est ça.
Ça ressemblait probablement à ça, son message.
C'est sûr. Puis t'as raison. Puis les Pingouins, en même temps, tu dis peut-être que les directeurs généraux se sont adaptés cette année en ayant vu qu'est-ce qu'ils avaient perdu lors du repêchage d'expansion de Vegas. Mais en même temps, reportons-nous dans la situation des Pingouins, par exemple, qui ont Murray, qui est un jeune gardien de but, qui arrive, qui voit en gros l'heure d'avenir, puis finalement, il est même plus là, puis il a besoin d'arrêter un ballon de plage. Fait que, mais les Pingouins ont pris une décision. On se débat, on va mettre le vétéran, gros salaire, sur cette liste de libération-là, et on va y aller avec le jeune. Le Canadien fait la même affaire, mais Price ne part pas. Donc, les directeurs généraux se sont peut-être un peu adaptés en mettant plus de gros salaires et de gros noms libres, sachant que l'équipe d'expansion n'allait pas aller dans ce secteur-là. Mais en même temps, peut-être que les jeunes disponibles, on n'a pas choisi les bons. Puis, tu sais, moi, j'ai pas vu la liste des goalers, mettons, là. Je suis pas certain que Philip Grubauer aurait été mon premier choix comme gardien de but. Parce que je pensais qu'il était overrated avec l'Avalanche. Puis la preuve, il le laissait aller. Puis d'après moi, ça faisait bien leur affaire. Fait que, je sais pas, il y a une question là-dedans d'opportunité aussi. Fait que,
mais... ils ont réclamé Vanecek, qui est avec Washington.
Ouais.
Ils l'ont réclamé de Washington. Puis ils l'ont retourné par une transaction. Puis il fait super bien à Washington, là.
Okay, puis, mais il y avait eu quoi?
C'est Samsonov qui est numéro un, si tu veux, mais Vanecek a des simples bonnes statistiques aussi.
Fait qu'ils ont peut-être fait des mauvais choix à certains endroits.
Il y a un texte de Kevin Dubé dans le Journal de Québec ce matin. Il a contacté Peter Karmanos, qui est l'ancien propriétaire des Hurricanes de Caroline. Il a vendu une bonne partie de ses actions parce qu'il n'est plus le propriétaire majoritaire à Tom Dundon il y a quelques années. Et il dit, il vante le marché de Québec comme étant un marché fabuleux pour la Ligue nationale de hockey. Et il dit qu'il y aurait de l'intérêt à mettre de l'argent avec d'autres pour ramener une équipe à Québec.
OK.
Est-ce que Québécois serait intéressé à avoir un autre partenaire avec eux autres? Ça, c'est la grande question qu'on a toujours posée, à laquelle on n'a jamais eu de réponse. Peter Karmanos dit... Si je peux trouver des partenaires solides, je serais intéressé à utiliser ce magnifique amphithéâtre en parlant du Centre Vidéotron. Il dit, il n'y a aucune équipe actuelle qui va déménager dans la Ligue nationale. Si Québec veut une équipe, il va falloir convaincre Gary Bettman d'avoir une nouvelle expansion. Si la Ligue nationale accepte de faire ça, je peux vous garantir que Québec va avoir son équipe, puis Houston va avoir l'autre.
OK.
Parce qu'ils vont en ajouter une dans l'Est puis une dans l'Ouest.
OK. Peut-être pas nécessairement la même année, là. Ils sont pas capables d'avaler deux équipes en même temps.
Oui.
Ils seraient capables, tu penses?
Je pense que oui.
Mais
on vient de parler. Tu peux pas avoir un déséquilibre. Tu sais, ça pue au nez de la Ligue nationale d'avoir, tu sais, puis c'est pour ça qu'on s'est dépêché d'amener Seattle parce qu'il y avait un déséquilibre dans le nombre d'équipes dans l'Est puis dans l'Ouest, là. Puis c'est ce qui a sans doute nuit à Québec aussi, au profit de Las Vegas il y a 5 ans.
Oui, mais c'est à chaque fois. Ils ont déménagé à Atlanta, ils ont retourné à Winnipeg. Tu sais, à chaque fois, Québec n'est pas dans la liste.
Ouais.
Tu sais, on est comme cocu plusieurs fois, puis on a de l'air aimé ça.
Mais
t'sais.
Là-dessus.
Ah non, mais.
On est cocu avec le sourire.
On est cocu avec le sourire, certain. Moi, là.
Mais là-dessus, Carmenos dit que la Ligue nationale ne se sert pas de Québec pour faire monter les enchères ailleurs ou pour faire du chantage ailleurs, comme ça a été le cas à Calgary, entre autres, quand on le raconte. On raconte dans le texte que les Flames voulait une nouvelle arena. Puis, à l'époque, c'est le directeur, le président Brian Burke des Flames qui me disait, ah oui, il répondait à une question à un journaliste, tu penses qu'on peut pas déménager? Québec. Je te dis ça de même, là. Québec. Ils sont prêts à recevoir une équipe. Puis finalement, à Calgary, ils ont déplié, puis ils vont avoir une nouvelle aréna.
Puis là, c'est encore la même affaire avec Arizona, qui doit se trouver un nouveau domicile. Pis...
Ben, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, tu te dis, si, mettons, ils sont vraiment mal pris, comme avec Atlanta il y a 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu sais, pourquoi pas? Puis après ça, ben, tu réajustes ton tir. Si t'amènes l'Arizona à Québec, ben, tu prends Nashville, puis Columbus, puis t'es envoyé dans l'Ouest. Ils sont comme un peu à la limite est-ouest, eux autres, géographiquement.
La ligne dans le centre des États-Unis est pas douette.
Non, elle est pas mal plus à l'Est, là, on s'entend, parce que, tu sais, Nashville, qui est dans l'Ouest, c'est pas mal plus dans l'Est de l'Amérique, on s'entend. Puis Détroit, puis même Chicago, là, à la limite, c'est pas tout à fait au centre. Là. Fait que, tu sais, il y a moyen quand on
veut. Mais rêvez pas en couleur, là. Arrêtez de rêver.
Dormez pas en couleur, comme disait Jean Perron. Les Remparts à Moncton ce soir, Thanksgiving, 3 matchs dans la NFL. Chicago joue à Détroit. Ça, il y a une affaire très particulière dans ce match-là, c'est que les Bears de Chicago, qui ont perdu leurs 5 derniers matchs, semble que la direction de l'équipe a dit à son coach, Matt Nagy, tu coaches jeudi, là, puis après, c'est terminé. Amène tes boîtes.
OK.
Parce que c'est fini après.
Ah. OK.
Puis il s'en va jouer contre la pire équipe de la NFL, ou à peu près, les Lions de Détroit, 0-9-1, leur fiche. Ça fait que Chicago risque de gagner, puis après le match, ils congédient leur coach.
OK. C'est vrai, ça, là, c'est pas une rumeur.
Ça a l'air que c'est pas une rumeur.
Ce qui est hot, c'est qu'on le sache.
Ah, en plus, ouais. Tu sais, puis ça a été sorti par un journaliste réputé, là, cette nouvelle-là, cette semaine. À 16h30, Las Vegas, qui a perdu ses 3 derniers matchs, joue à Dallas. Et ce soir, Buffalo, qui a des choses à se faire pardonner, mais pas à peu près, parce qu'ils ont perdu des matchs qu'ils auraient jamais dû perdre dans les dernières semaines. Donc, Buffalo joue à la Nouvelle-Orléans contre les Saints, qui vont être privés de leur porteur de ballon étoile, Alvin Kamara, qui est blessé à un genou, et les Saints ont perdu leurs 3 derniers matchs.
Hey Pierre, va donc voir comment il reste de monde dans le pool, puis si les games d'aujourd'hui vont avoir fait plusieurs personnes qui auront sélectionné, justement, parce que beaucoup de monde prennent compte les Lions de Détroit, parce que c'est ça, ils ont
c'est
pas...
C'est normal, tout le monde...
C'est tout à fait normal. Le match qu'ils auraient pu gagner contre les Steelers de Pittsburgh, ils ont fait match nul, puis tout le monde a passé. Fait qu'on n'a pas éclairé personne à cause de ce match-là. Et je reviens à ton affaire de
84 pour
Il reste 84 poolers. Puis est-ce qu'il y a des choix de rentrée? Des fois, tu vois... Là,
la tendance cette semaine, 8 personnes ont choisi les Cowboys, 6 les Eagles, 3 les Bears.
Ah, les Eagles contre les Giants. Oh, y a du monde qui ont pris ce game-là. Ouais. Okay.
Les Panthers 2, puis les Texans 2. Donc, à l'évidence, les gens n'ont pas beaucoup fait leur choix encore.
OK. Ce n'est que des premiers balbutiements, mais selon Radio-Canada, on pourrait nommer les Cowboys gagnants tout de suite.
Oui. C'est la tendance, ce métier. Ouais.
Les Eagles, restez pas loin, les Eagles. Ça se peut que vous gagnez, finalement.
Ouais. C'est ça. C'est
On a parlé de déménagement.
Le coach des Bears de Chicago, là.
Oui, Matt Nagy.
Donc, lui, il serait avisé de ça, qu'après la game, peu importe ce qui arrive, la game à Détroit...
C'est ce qui est sorti.
OK. Mais mettons, là, c'est sorti... Mettons, lui, il l'a lu quelque part, tu comprends?
Ben oui, il sait que c'est sorti.
Mais il a dû appeler son boss.
Ouais, mais peut-être que son boss l'a appelé lundi pour lui dire...
OK.
Écoute, jeudi, là, on est à court parce que la game, c'est jeudi, là... parce que les Bears ont probablement joué dimanche dernier. Là,
oui, ils ont joué dimanche. Bon. J'ai écouté ce game-là.
Ça fait que, tu sais, ils ont 3 jours pour se préparer pour le match d'aujourd'hui. Ça fait que t'as pas le temps de changer de coach. Là.
Ouais, mais je veux dire, moi, je vois pas. Je veux dire, tu m'appelles moi et tu dis, tu vas coacher ta dernière game jeudi. Ben, va chier. Je vais pas là. Puis pourquoi j'y vais pas? Parce que j'irais peut-être si ça avait été contre un bon club. Puis pour vraiment montrer que je suis capable de faire gagner une équipe moyenne, parce que les Bears sont moyens, puis je le sais, Chicago, là, c'est, j'ai hâte de voir si donc on le remplace. Ça va être parce que c'est, j'ai écouté la game, c'était contre Dallas, Chicago. La game, c'était pas contre Dallas, c'était contre qui, non? Ils ont changé de corps dans le milieu de la game. Ils ont débarqué Fields, Justin Fields, puis ils l'ont remplacé par le vétéran.
Par l'autre. L'ancien des Eagles, là.
Oui, Carson Wentz.
Ouais.
C'est Wentz qui a embarqué, puis il a été très bon. Puis, tu sais, ils ont failli gagner, là. C'était très, très, très serré jusqu'à la fin. En tout cas, je reviens à ça. Moi, mon boss me dit, ouais, c'est fini. Ben, va chier, je m'en vais chez nous. Hey, ben pourquoi j'irais là une dernière fois? Puis, tout ce que je risque de faire, c'est d'en rajouter sa pile que je suis pas bon, parce qu'on pourrait être les premiers et les seuls à perdre contre Détroit cette année.
C'est vrai, ça. Hey,
voyons oui. Donc.
Andy Dalton qui était le carrière substitut.
C'est le rouquin Dalton
ouais,
qui est
l'ancien,
comme
des, l'ancien des Bengals.
En tout cas, et tout ça pour dire que je me disais, non, OK, moi, c'est mon cas. Il me dit, c'est fini.
Ouais.
Hey,
mais
va chier.
Hein? Je sais pas. Le gars, il veut peut-être passer en victime, en sachant que tout le monde sait, en Amérique, il passe à la TV la dernière fois à main bout. Puis, s'il gagne son dernier match, ça le place peut-être dans une meilleure position.
Il veut se retrouver une job.
De sympathie pour se retrouver une job, effectivement.
Tu as été professionnel jusqu'au bout.
Exact.
Non. Ça va être correct, professionnel jusqu'au bout. La direction ne l'est pas.
Non. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun bon sens.
J'ai bien hâte de voir ça.
Les Rams de Los Angeles sont à Los Angeles depuis 2015. Avant ça, c'était les Rams de Saint-Louis. Puis
avant ça, c'était les Rams, d'ailleurs.
Les Rams de Los Angeles encore. Los Angeles, Saint-Louis, Los Angeles,
c'est
me semble.
C'est ce que je pense.
Mais quand Saint-Louis a perdu son équipe, ils ont intenté une poursuite contre la NFL et les Rams parce que ils disaient qu'ils étaient privés de plein de revenus, puis nanana, tout ça. Et hier, ça s'est réglé. La NFL et le propriétaire des Rams vont devoir payer 790 millions à des intérêts de Saint-Louis qui les poursuivaient. La poursuite d'1 milliard, parce qu'on s'en a réglé son coup, prétendait que le déménagement des Rams après la saison 2015 vers Los Angeles a privé la région de millions de dollars en taxes diverses qu'il avait été le déménagement fomenté dès 2013, que l'équipe a par la suite menti sur ses intentions et que la Ligue a ignoré ses propres règles de relocalisation en permettant le déménagement.
Okay.
Et ils ont perdu les Rams et la NFL.
Et ils doivent débourser donc à la ville de Saint-Louis.
790 millions.
Je suis pas certain que si j'étais
C'est le prix d'une équipe de la Ligue nationale de hockey.
Ça. C'est ça, mais je suis pas certain que si j'étais un résident de Saint-Louis, c'était une bonne nouvelle. Que c'est une bonne nouvelle parce que oui, il y a des revenus supplémentaires majeurs pour la ville, malgré que ta relation avec la NFL est comment maintenant, aujourd'hui?
Ouais.
Si un jour, il y a une relocalisation, peut-être une expansion.
Il est déjà
aussi.
Même question de ramener une équipe de la NFL à
oui,
Saint-Louis.
Oui, je
là,
sais,
là.
On l'a nommé, on en a
cette
parlé
semaine,
avec Ray cette semaine.
Ouais.
Mais tu sais, en même temps, quand... peut-être qu'ils vont le dire, ouais, essayons d'oublier la dette qu'on doit.
C'est peut-être ça qu'ils vont négocier.
C'est peut-être ça.
Pour
hein.
ramener une équipe. C'est pas impossible. Il y a eu hier dans la NFL un événement un peu troublant. C'est le joueur de ligne défensive des Vikings du Minnesota, Everson Griffin, qui a publié des messages troublants sur les médias sociaux tôt hier matin.
Comme?
Genre, j'ai besoin d'aide. Des personnes veulent me tuer dans mon domicile. Il a appelé le 911. La police s'y est rendue. Ils ont trouvé personne d'autre que lui avec une arme. Et là, il s'enferme dans sa maison. Il veut pas sortir de là. Il y a des psychologues des Vikings qui sont en contact avec lui, mais il veut rien savoir de sortir de là. Mais on est en communication constante avec lui. Ça, c'était ça aux dernières nouvelles.
Il n'est pas barricadé.
Non, ben, il n'est pas barricadé, mais on sait qu'il y a une arme.
Il fait on appelle ça un Serge Thériault, mettons.
Ouais, peut-être, je sais pas là, mais on dit aussi dans la nouvelle qu'il a déjà éprouvé des problèmes de santé mentale. On souhaite juste que ça se termine.
Non, mais c'est clair que c'est ça. Ouais, mais je veux dire, s'il craigne pour sa sécurité, il aurait pu au moins saisir son arme. Là. Je veux dire, t'sais, quelqu'un qui est visiblement en crise, j'imagine que les autorités ont le droit de saisir les armes à feu.
Ouais, mais est-ce qu'ils sont rentrés dans la maison, je sais pas.
OK.
Okay. Ça, je sais pas.
Il est clairement, il a mélangé les couleurs des peluches, là, aussi, il les a pris, là.
S'il les a pris, peut-être, on sait pas. C'est le début du tournoi de la Coupe Davis aujourd'hui. On y reviendra demain, mais le Canada est pas très bien placé. Il y a deux ans, dans la dernière présentation, le Canada avait perdu en grande finale contre l'Espagne de Rafael Nadal. Mais là, Nadal n'est pas là. Puis les trois meilleurs du Canada sont pas là cette année.
Okay.
Raonic, Shapovalov, Félix Auger-Aliassime prennent des congés parce qu'ils ont eu des grosses saisons. Ah. Puis Raonic est toujours blessé. Donc, on n'a pas beaucoup d'espoir du côté du Canada.
Je pense qu'il joue pas au football, lui, Raonic, hein?
Eh, mon Dieu, non. Et il y a
lui,
le
il la combose de combinaison, hein. Ça, c'est fragile.
Il est fragile. Mais c'est un sport tellement tough.
Arrête donc le tennis. Pouf, 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 une petite balle, c'était là.
Ah, t'as-tu joué?
Oui!
OK, t'as déjà joué pouf, 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 une petite
non,
balle.
Non, 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 j'ai joué du gros niveau.
OK, à TV? T'as-tu joué à TV le dimanche après-midi?
Non, ma mère avait filmé une game, mais
t'as du gros niveau.
Alors, c'est devenu un sport vraiment difficile physiquement. Ben, t'as juste à voir le nombre de blessures, là.
Ouais,
il y a
oui,
personne qui n'est pas blessé.
Il y en a même une qui a disparu.
En plus.
C'est dangereux, le tennis.
Une compagnie d'analyse de données qui s'appelle Grace Note, qui prédit, parce qu'il y a des Jeux olympiques d'hiver à Pékin cet hiver, au mois de février, ça s'en vient vite. Donc, on prédit que la Norvège va dominer le tableau des médailles. Le Canada terminerait au cinquième rang avec 23 médailles, dont 5 d'or, 8 d'argent et 10 de bronze. Les médailles de bronze, les 5 médailles, d'or plutôt, on va finir par le dire, ce serait au hockey. Les deux équipes de hockey, masculin et féminin, gagneraient l'or. Michael Kingsbury en bosse, Maxence Parot en planche à neige et Laurent Dubreuil en patinage de vitesse gagneraient les médailles d'or du Canada. Ce serait donc la Norvège avec 45 médailles devant la Russie, l'Allemagne et les États-Unis.
C'est quoi cette affaire-là? C'est donc bien.
C'est une entreprise qui analyse des données avec les résultats des dernières Coupes du monde dans les derniers mois, dernières années.
Mais je sais très bien qu'avec l'expérience qu'aux Jeux olympiques, c'est jamais vraiment... C'est les championnats du monde, les champions du monde ont de la misère. Les champions du monde de l'année en cours ont de la misère à réitérer. Tu sais, Dubreuil, là, il est premier. Mm-hmm. Il fait pas rien qu'être premier. Il domine sur la scène des patinages.
500 mètres,
ouais. Ouais. Même là, il a gagné sur d'autres distances
ouais,
aussi.
Mais c'est surtout le 500 mètres mais... où il y a 4 médailles d'or en 4.
Ouais, c'est ça. Tu sais, quand même. Mais on sait jamais. T'es jamais à l'abri d'une performance un peu plus difficile. Les filles au hockey, ils viennent de perdre deux fois de suite contre les Américaines.
C'est des prédictions. C'est comme la météo, là.
Mais j'aime pas ça parce que ça vient jouer dans la tête. Quand ton nom est sur la liste, t'as raison d'être de mauvaise humeur parce que c'est une pression inutile qui est amenée par des gens qui ont probablement une job inutile.
Ça à tous les comités olympiques nationaux de la planète parce que tous les comités olympiques nationaux le font pour leur pays.
Okay.
Ils font des prévisions, ils font des, tu sais, c'est sûr que c'est des prédictions. Puis comme tu dis, la journée de la compétition, il faut que tu sois ton meilleur.
Ben, c'est
si
sûr.
Tu l'es pas, puis ton adversaire que tu bats normalement, il l'est, lui. Ça se peut bien que tu
puis le rôle de favori, c'est un rôle que tu veux pas.
Non.
Tu veux pas être le favori. Tu veux pas être en avant de tout le monde.
Il y en a qui carburent à ça, par contre. Il y en a qui aiment ça.
Peut-être. Moi, je suis pas certain que... Moi, la pression, je garde ça pour pisser. Là. Fait que c'est pas ça qui m'écrase. Là. Ouais. Mais c'est pas grave. Il y a des fois, quand c'est un sport jugé, là, peut-être que ça peut te donner un certain avantage. Parce que il y a toujours un... Tes erreurs font toujours moins mal si t'étais jugé par des juges pendant plusieurs compétitions comme étant le meilleur. Là, t'arrives à une autre compétition, t'es un peu moins hot, mais on le sait que t'es capable de faire ce saut-là. Exactement.
Canadien, c'est un sport jugé, ça, parce qu'on les juge beaucoup.
Il y aurait plus de chance, je pense.
C'est ça, là.
Parce que des fois, ils sont cute, même s'ils perdent.
Exact.
Attachant.
T'as fait le tour?
Ouais, ben...
Sans parler de ce qu'ils font, rien.
T'as fait le tour.
Ben, je peux te parler vite, des Jeux olympiques de Paris en 2024, prochain jeu d'été, parce qu'il y a un projet... Comment?
On pourrait aller là.
Certain. Non, mais on pourrait aller juste sur le bord de la scène pour les cérémonies d'ouverture, parce que c'est là qu'ils projettent de faire la cérémonie d'ouverture sur...
Ça sent pas la marde, là?
Hein?
Je suis jamais allé.
Non.
OK, je pensais que ça sentait le mauvais, la rivière.
Non, pas tant.
OK.
Pas tant.
C'est pas sale.
T'avais dit ça dans tes questions, Vez?
Non, pas encore. Non, c'était pas prévu, ça.
OK.
Mais,
Fait que, il aimerait...
la réponse dans mes feuilles, je la trouve pas.
Donc, ils veulent pas des cérémonies d'ouverture dans un stade. Ils voudraient ça plus...
Ils voudraient faire ça sur la scène.
OK.
Soit une estrade flottante avec ou sur des péniches, des bateaux, des ci, des ça. Puis le public serait sur les rives.
Péniche,
des péniches, oui. C'est
long comment de long, ça, dans la ville, la scène?
Ça doit faire...
7-8
finish, au
certain.
Pif, au pif, ça doit faire à peu près 6-7 kilomètres, je te
dis. OK. Donc, ça serait quand même possible d'amasser. Puis, il doit y avoir des endroits où c'est assez dégagé, où il pourrait y avoir des estrades, donc de chaque côté de la rivière.
Oui,
puis
donc, ça, c'est juste un projet actuellement, parce que là, les organisateurs, puis la ville, puis la police, puis l'armée, puis nanana, ils veulent s'assurer de la sécurité. Puis, s'il arrive de quoi, il faut qu'on soit capable de sortir les gens de là rapidement.
C'est génial. S'ils veulent parader les athlètes, par exemple, et tous les invités sur la scène, comme ça, sur cette longueur-là, c'est sûr que la sécurité, elle est difficile.
C'est difficile à gérer.
Exactement.
C'est là-dessus qu'on travaille actuellement.
Good. Merci beaucoup, mon ami. C'est le tournoi, le début du tournoi junior de A. Junior. Tournoi, parce qu'il y a du simple lettre aussi, je crois. Ouais. Du côté de Saint-Romuald. C'est un tournoi de hockey, hier, je parlais avec un des organisateurs. Premièrement, j'étais en joie le vert. Mon gars, il m'appelle, il me texte. Il dit, j'ai besoin de 500 piastres.
Hein?
Ah oui.
Demain.
Il me texte pas pour 5 piastres.
Moi aussi, mais je t'ai pas texté. Je le fais ce matin.
Mon gars, il me texte, 500 piastres, payer l'inscription junior, OK. Là, j'ai de l'appel. J'ai dit, OK, pourquoi, là? Puis là, pourquoi tu m'arrives ça là? Puis ça prend ça là, là. Ben, il dit, on joue au tournoi junior ce soir. Il m'a dit ça à 4 heures hier. J'étais enceinte, s'il vous plaît.
Ouais.
OK? Tu sais, parce que j'aime ça, le suivre, tout ça. J'ai dit, ça va bien, la communication? On est super ensemble cette semaine, deux fois. T'as pas eu envie de m'en parler? Fait que il y a beaucoup d'équipes de la région parce que les ligues juniors 2A sont séparées, hein, Rive-Nord, Rive-Sud. J'ai toujours trouvé ça particulier, mais je comprends que sur la Rive-Sud, il y a quand même beaucoup d'équipes. Sur la Rive-Nord, probablement.
La différence, c'est les heures de glace.
Ouais.
Ta game sur la Rive-Sud, tu prends 3 heures, 3 fois 20 minutes avec des glaces entre les périodes, puis tout ça, ça arrive nord. Ça arrive nord, c'est impossible.
OK. Bon, mais en tout cas, fait que peu importe, là. Ouais. Et hier, on affrontait 5 fois, mais donc je dis on, l'équipe de mon fils. Hein. Ben, je dois te dire on. Oui. Chris, il m'a demandé 500 piastres.
On exclut la personne qui parle, de
ben
toute
oui,
façon.
Ben oui, c'est ça. Fait que,
ça a fini combien?
Je dois payer mon inscription, donc j'ai besoin de 500 piastres. Ils ont perdu 3-0. Cette fois, aucune défaite.
On a perdu. Ils ont perdu. Mais on
jouait à 6h15, puis ils ont perdu 3-0.
Mais s'ils avaient gagné, ça aurait été « on a gagné ».
T'es bien chier de t'enfarger, toi, des superlatifs. OK, fait que c'est ça qui est ça. Bon,
mais ça s'en vient juste pour le tournoi.
Non, ça doit être pour sa saison. Je sais pas trop, là. Tu sais, fait que.
Il dit, t'as acheté un ordi à l'autre, tu vas me payer ma saison, moi.
Non, c'est ça. C'est bien correct. Regarde, ça lui fait sortir de la cave. Fait que.
Il rejose-tu?
Il rejose ce soir, à 6h15 encore.
Vous allez jouer?
Pas certain. Hein. C'est le dîner des 30 ans galopins. D'après moi, je sauterai des chiffres. OK. Il est à 7h02. Vous êtes dans Dupont le matin. J'ai 95$. C'est un traitement anti-rouille. Pour votre véhicule ou le véhicule de votre épouse, tendre chérie.
Ah, c'est un beau cadeau, ça.
Ou votre époux, exactement. Donc, vous vous inscrivez au 25226. Comment faire? Ben, tu prends ton téléphone, tu vas dans Texto, tu mets, premièrement, vous associez le nom de la station ou de l'animateur de votre choix. Maintenant, vous dites, moi, je texte juste la fin de semaine au gars, comment il prend sa douche de temps en temps, là?
Paul Raphaël.
Ben, tu peux mettre Paul Raphaël, puis marquer 25226. Fait que, tu sais, c'est comme tu peux montrer à tes chums, regarde, moi, je texte Paul.
Moi, là, j'ai son numéro.
C'est ça. Fait que, ou bien vous mettez Dupont, tu mets Bouchard. Fait que.
T'es pas tout seul à mettre des surnoms aussi. J'ai appris ça, là. Il y a des. Jean-Thomas Jobin fait la même chose. Il met des surnoms à tout le monde dans son sel. Fait qu'il est comme toi, il est perdu, c'est plus qui est le texte.
Ouais, c'est ça. Ça vient fatigant, là. Je vais diminuer cette affaire-là. Parce que j'ai eu une journée un peu difficile hier, dans la deuxième moitié de la journée.
C'est sûr qu'une fois fendu, c'est dur de retrouver le chemin derrière des fois.
Hier, j'avais des rencontres, vous comprenez pas, là. Je suis particulièrement 5h30 hier pour travailler, puis je suis revenu, il était 4h30. C'était un feu roulant de rencontres et de fort intéressantes. J'ai visité probablement un des plus gros entrepôts de toute la rive sud de Québec. Un entrepôt de pièces d'auto qui va se moderniser encore plus écoute, comment je te dirais, ça là 45 pieds de haut.
Comment ils font pour retrouver le manifold?
Je ne sais pas comment ils font, mais c'est tout avec des codes-barres.
OK.
Mais c'est le principe que j'ai adoré. Puis là, je vais vous en reparler parce que c'est une entreprise qui élabore sur le bien-être de ses employés. Donc, c'est un centre de distribution de pièces automobiles pour des magasins comme pièces d'auto économiques. Fait que c'est immense. Je sais pas, en milliers de pieds carrés, comment c'est grand. Ça s'appelle Transit, pièces d'auto Transit. Donc, c'est un gros 6. C'est pas, il vend pas au détail.
OK.
C'est à 45 pieds de haut, la bâtisse. Donc, quand tu regardes en dedans, le toit. Et donc, c'est des employés qui se promènent avec des chariots électriques, avec des guns à code-barre. Ouais. Fait que là, ils cherchent telle pièce, puis là, ils savent exactement où le scanner l'emmène exactement au bon endroit. Il scanne la tablette, c'est la bonne pièce, il la prend, il la met sur son buggy, puis il fait ici la... Donc, c'est... comment expliquer ça? C'est person to pick up. T'sais? Donc, c'est l'employé qui va chercher la pièce. Et là, il inverse la chaîne. Et là, ça va être pick up to the person. Ça veut dire que ce sera des bacs électroniques auto-guidés qui vont...
machine distributrice quasiment, là.
Ben, les bacs vont partir du racking tout seul. Ils vont se rendre à un employé qui va être fixe. Et lui, il va prendre dans le bac. OK, il faut que je prenne deux morceaux dans ce bac-là. Je vais le prendre. Le bac va retourner, se ranger, tout ça.
Incroyable. Ça doit être des investissements majeurs, robotiser ça.
C'est des dizaines de millions de dollars d'investissement.
C'est sûr.
C'est très... Ah ouais, c'est impressionnant. Et puis de voir la grandeur de la bâtisse. C'est juste de donner un exemple. Toute la bâtisse, elle est chauffée et climatisée par géothermie. Il y a 45 puits. J'avais jamais vu ça, aussi gros que ça. Moi, la géothermie, ça m'a toujours fasciné. J'ai failli le faire pour ma résidence, mais l'écart de prix était trop grand. Mais un coup que c'est fait, ça coûte pratiquement plus rien. Peu importe. Mais toute la modernisation, la propreté, t'aurais pu prendre un sandwich, le mettre à terre pour le manger sans aucun problème.
Même moi?
Même toi. Okay. Oh, oui. Non, je te dis, c'était exceptionnel.
C'est juste plate de se coucher à la table manger un sandwich. Mais...
puis grosso modo, juste pour vous dire, les propriétaires ont acheté, mettons, il y a de ça quelques années, une cabane à sucre. Puis ils produisent du sirop d'érable qui est uniquement pour donner aux employés. Ils ont acheté une fermette. Il y a un employé à la fermette qui cultive des légumes. Et quand c'est prêt, il amène ça à la shop.
Cet employé-là, là, c'est hot en crif parce que la fin de semaine, lui, les gens, ils demandent qu'est-ce que tu fais. Il dit, ben moi, je travaille chez pièces d'auto...
Transit.
Ah oui, tu fais quoi? Ben, je fais le sirop d'érable.
Ben oui, mais là, ils ont construit, c'est flambant neuf, je l'ai visité hier, à l'écart un petit peu de l'entreprise, dans le stationnement de l'entreprise, mais d'une bâtisse détachée, ils ont construit un garage.
Un
de
gros
mécanique.
Garage,
non,
pour les
mécanique.
Employés encore? Pour les changements de pneus et tout ça, genre?
Oui, avec l'employé fourni. Fait qu'au lieu qu'ils aillent, mettons, dans un garage, puis eux autres, c'est qu'ils ont déjà les pièces.
Ben oui.
C'est des gars qui travaillent dans des pièces automobiles.
Puis ils n'ont pas d'intermédiaire.
C'est ça.
Hey.
Fait qu'ils leur ont installé deux portes de garage avec les lifts, puis le mécanicien.
Ça donne le goût.
Fait que tu prends un rendez-vous, puis tu fais réparer ton char à la shop pendant que toi, tu travailles. Puis c'est le tiers. J'ai de la misère à mettre un prix là-dessus. Donc, tout est bâti dans le but de rendre l'employé confortable, que ce soit agréable, que ce soit...
On n'est pas juste des bonnies, là.
Puis là, moi, hier, quand j'ai... Hier, je visitais la nouvelle cafétéria. Il va y avoir à cet endroit-là, c'est dans le parc industriel à Lauzon. Si c'était commercial, ce serait l'une des plus belles terrasses. En Grégo Délice, il y a toute une terrasse. Mais tu sais, quand t'es rendu à comparer une terrasse d'un entrepôt à une terrasse d'une restauration qui a besoin de faire de l'argent avec sa terrasse, c'est écœurant, là. Et là, parce que je peux pas vous donner les détails, les employés ne le savent pas, mais la nouvelle cafétéria qui est en construction actuellement, c'est à Chiateur, comme on dit nous autres, par genoux.
On dit ça par chez vous?
Oui, on dit ça de même chez nous.
Mais c'est où pour aller travailler là-bas?
C'est
à combien de temps des ponts?
Ben c'est à côté, c'est à Lauzon.
À Lauzon.
Donc, tu prends la sortie route de l'Allemand parce que tu reviens un peu vers Lauzon.
Route de l'Allemand.
Route de l'Allemand.
Parce que s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, d'après moi, ça, c'est un bon emploi.
C'est quelques minutes. Oui, absolument. Puis le pire, c'est qu'ils sont pas en manque de personnel, justement.
Tu sais, en prenant une rétention. Ils gardent leur monde,
ouais. Ben ouais, c'est ça.
Hey, c'est cool, ça.
C'est capoté. C'est la façon de penser que j'adore qui est différente de ce qu'on va voir des fois ailleurs.
Tu travailles dans le domaine de la pièce d'auto. Qu'est-ce que tu fais? Une sirop d'érable, Tarlet, voyons. Donc.
Oui,
c'est très
hot. Cultivateur, puis tu sais, il y a un gym, il y a toutes sortes de choses qui rendent la vie simple et agréable. OK, on s'arrête quelques instants. C'était les sports qui étaient interminables. J'ai peut-être pas complété en vous disant que faut vous texter le mot Champlain
oui.
pour gagner 25$ dans le tiroir. 95$ dans le tiroir. Je suis bien mêlé à matin.
Non.
Pourtant, j'ai peut-être
c'est
trop dormi.
C'est des pantalons serrés qui font en sorte que le sang circule mal.
Je pas supposé t'asseoir, là.
J'ai peur de fesser au plafond, mais je me relève. Ça va être l'effet élastique de mon jeans qui va me projeter au plafond.
T'as trop de sang au cerveau.
Oui, beaucoup trop.
Oh, c'est
fait ça. 95$. Ça, c'est un traitement anti-rouille. C'est anti-rouille Champlain. Tu textes le mot Champlain avec ton cellulaire. Tu textes ça au 25226. Tu peux le texter au 61212 ou à d'autres numéros, là. Mais, tu sais, les autres, ils font bien gagner. Ouais, tu gagneras pas. Fait que 25226, on va garder ça simple. Et, peut-être que tu seras le gagnant, le récipiendaire d'un traitement anti-rouille de 95$ de chez Anti-rouille.